T.
Tu. F.
F.
Fait. Q.
Q.
Quoi.
T.
F.
Q.
T. F. Q.
Tu fais quoi?
L'émission qui est ce que tu fais.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans TFQ. Tu fais quoi? C'est ce texto qu'on a tous et toutes envoyé pour rejoindre un after, un concert, un pique-nique, un meeting de Christine Boutin, que sais-je. Cette émission a été enregistrée hors les murs de prune, confinement oblige, la vague à l'âme, avec l'envie d'avoir envie, pas peu fier de poursuivre l'effort de culture avec vous dans toute sa splendeur. Ici Baptiste pour vous servir, il est 18h, on va rester ensemble jusqu'à 19h pour vous donner accès à la crème de la crème de la scène musicale de la ville au petit beurre. Et pour ce faire, je me trouve entre de très bonnes mains puisque Antonio est de la partie. Salut Antonio.
Salut Baptiste, c'est bon de te revoir même à distance. Donc aujourd'hui je suis là parce qu'on s'approche de la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année de 2020 après Jésus-Christ et toute la culture en France est empêchée de se produire à cause du coronavirus. Toutes, non, un petit village d'irréductibles nantais résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Confiné Records et plus spécifiquement d'un de ces héros que l'on soupçonne avoir tombé dans la marmite de la créativité. Je vais vous parler du coup de Raphaël Jarry.
Fort bien. Et nous avons également Lisa avec nous, loin des yeux, près du cœur. Tout à l'heure, avec elle, on va parler tétons, objets volants et exclusivité avec Zoé Cavaro. Vous comprendrez le lien entre ces mots qui n'ont pour l'instant aucun rapport avec l'interview que Lisa a pu conduire avec elle. De mon côté, je vais mettre l'accent, comme la semaine dernière, sur un des 5 artistes sélectionnés pour le programme de résidence Sortie de Piste porté par 44 Dours, le Macadam ainsi que Trampolino. Et nous avons également Émilie aujourd'hui avec nous. Salut Émilie.
Salut les garçons, comment vous allez? Je suis contente d'être là avec vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler, moi, de Degri, un artiste nantais âgé de 21 ans qu'il faut absolument suivre de très très près. Il avait à peine 16 ans quand son premier titre, Under the Same Flag, posté sur Internet, a attiré l'attention d'une radio de référence de l'autre côté de l'Atlantique à Los Angeles. Il a des inspirations comme Cohen ou Bowie, mais des artistes aussi de sa génération, tels que Jacques Garot ou Woodkid. Degri s'affirme comme un artiste d'électro-folk, pardon, un artiste qui doit quand même avoir dans son code génétique du talent, car son oncle n'est que l'artiste Vincil. Degri, c'est le D de Dugast et le GR de Grégoire, et comme il le dit joliment, c'est aussi une unité de mesure et une façon de mesurer l'équilibre entre la folk et l'électro. Son premier EP, intitulé Draw to an End, sorti fin février 2020 avec le label Hippon, convoque des sons et vise l'équilibre du croisement de sonorités digitales et organiques, mais surtout la fin d'un cycle et le début d'un autre. De passion adolescente à moyen d'expression créative, cet EP est une réalité que Degri a concrétisée. Alors nous allons tout de suite entendre, tendre l'oreille, devrais-je dire, et écouter Part of It, tiré de cette EP qui est sorti il y a 3 semaines sur toutes les plateformes de téléchargement.
Cette fois, je ne peux pas laisser ces mots passer. Beaucoup trop de soirées perdues à encaisser. Encore une fois, beaucoup trop de fois. C'est fini le temps où je te laissais critiquer. Flèche tirée du haut de ton insécurité. Plus de faux pas, mon maladroit. Tout ça est terminé. Je ne laisserai plus passer tous ces mots, tous ces regards. Des années assimilées. My family rests on secrets. Oh, it's killing me, hurts. I'm sorry for you. en touche de la même façon. Protéger, protéger le garçon qui vient danser dans ses temps, c'est sans hésitation l'arrêter. Il n'en est pas question, bien autant que je n'attends plus votre autorisation pour aimer. Aimer avec passion, mais l'amour sera-t-il un jour bienvenu à la maison? Cette maison fait la tienne, je t'y invite quoi qu'ils pensent. Ils peuvent crier au blasphème, moi je chanterai le louant. My family rests on secrets, oh it's giving me headaches. Dear, I'm sorry for you. This family's just about secrets. We keep living on the edge. Now you're part of it too. Now you're part of it too. My family's just about secrets. Oh, it's giving me headaches. Dear, I'm sorry for you. My family rests on secrets. Oh, it's giving me headaches. Dear, I'm sorry for you. This family's just about secrets. We keep living on the edge. Now you're part of it too. My family rests on secrets. Oh, it's giving me headaches. I'm sorry for you. This family's just about secrets. We keep living on the edge. Now you're part of it too.
Tu fais quoi?
Vous êtes toujours avec l'équipe de TFQ sur 92 FM. Nous venons d'écouter Part of It de Degry. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons écouter l'interview de Lisa avec Zoé Cavaro.
Aujourd'hui, nous accueillons Zoé Cavaro. Zoé, merci d'être avec nous. Alors, crise sanitaire oblige, on est chacune d'à côté de notre écran, donc c'est un peu moins sympa, mais on arrive à se voir quand même. Les studios étant encore fermés pour le moment, mais on est bel et bien présente. Donc Zoé, tu es photographe, vidéaste et réalisatrice. J'espère n'avoir rien oublié. Tu as commencé par la photographie, il me semble. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour une photographe d'avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir se faire un nom dans ce monde-là, dans le monde de l'image?
D'abord, merci à toi, Lisa, de m'avoir proposé de participer à cette petite interview. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est très avantageux aujourd'hui d'être polyvalent, mais je ne sais pas si c'est forcément primordial, nécessaire, parce que je pense que quand on est spécialisé dans une pratique, eh ben, on nous appellera parce qu'on est bon là-dedans. Après, je sais que, enfin, moi, quand on m'appelle, je sais que ça intéresse les gens que je propose et de la photo et de la réal, parce que comme les gens ont confiance dans ma vision artistique, en fait, ils savent qu'ils peuvent m'appeler d'abord pour un clip, puis ensuite pour des photos, et qu'ils retrouveront ma patte, ils retrouveront, c'est bête, mais aussi mon côté humain. Enfin, il y a tout un truc aussi de confiance et du côté package. Et puis, comme on est dans un monde où il y a quand même un peu moins de moyens, sur de nombreux projets, c'est sûr que quand on a quelqu'un qui peut nous proposer différentes palettes de choses, il y a aussi la question de la sécurité. En fait, on prend moins de risques, on est sûr de ce qu'on va avoir à la fin. Donc ça peut plaire, mais après, je pense pas que ce soit forcément obligatoire, quoi.
D'accord, mais tu as justement toutes les cordes à ton arc, donc c'est quand même un gros avantage. Et justement, en tant que photographe, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Comment tu as commencé et quelle technique tu utilises pour ce métier?
Je sais pas si j'ai eu vraiment un élément déclencheur. Ça a commencé, j'étais toute petite, je pratiquais déjà beaucoup de choses artistiques différentes. J'ai toujours eu besoin de m'exprimer à travers différents médiums. Et puis, en fait, quand on m'a offert mon premier petit appareil photo, ben, ça m'a tout de suite... c'était un objet qui me plaisait énormément. Et puis, pour la petite anecdote, les premières choses que je faisais, en fait, j'aimais trop, j'étais dans ma chambre. Et en fait, je prenais tous les objets que je trouvais et je les jetais et j'essayais de les prendre en photo en plein vol. Donc je pense que ça devait faire un petit bordel dans ma chambre et que je devais sûrement passer pour je sais pas quoi auprès de mes parents. Mais en tout cas, c'était assez drôle à faire. Et je pense que si j'arrive à retrouver les photos, ça va sûrement être des chefs-d'œuvre. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça, donc avec des vols d'objets en photo. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai continué et sans forcément me dire je veux en faire mon métier. Parce qu'en fait, l'image que j'avais de ce métier, c'était faire des photos de mariage, faire des photos de naissance, ce qui est tout à fait respectable. Mais voilà, c'est pas un truc qui me fait vibrer, quoi. Donc je m'étais pas dit je veux devenir photographe, je savais pas trop, c'était un peu flou. Et puis en fait, naturellement, j'y suis parvenue quand même, parce que en fait, si je fais autre chose que de la photo, de la réal et enfin tout ce que je fais aujourd'hui, je pense juste que je vais mourir en fait. Donc je peux pas être ailleurs, je peux pas faire autre chose, et voilà, c'est venu naturellement. Et puis juste, j'ai oublié la technique. Donc moi, je travaille exclusivement au numérique. Je fais un petit peu d'argentique, mais ça va plus être pour des photos souvenirs, du plaisir. J'aime énormément le rendu de l'argentique, mais je préfère le processus de travail au numérique. Donc voilà, j'ai choisi de... En tout cas, pour l'instant, je reste au numérique. Après, on verra.
Très bien. Et j'espère que tes petits objets volants vont bien aussi. Tes photos sont, je trouve, assez poétiques, avec toujours un espèce de mouvement, ce qui donne vie au sujet, finalement. Alors, comment on se crée un univers, Zoé ? Est-ce que tu as des inspirations d'autres photographes ? Je ne sais pas, moi, le cinéma, peut-être la musique ?
Je pense qu'on se nourrit d'un maximum de médiums et d'un maximum de choses qu'on vit autour de nous. Après, il n'y a pas un protocole à suivre pour se créer un univers. Il n'y a pas un moyen. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement instinctif. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on adore, des univers où on se dit j'aimerais que ce travail-là ce soit le mien, j'aimerais que mes images ressemblent à ça. Et puis en fait, quand on fait des images, elles sont à 1000 km des univers qu'on aime. Et je pense que c'est parce que même si on se nourrit de tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, le fait que ça passe dans nous, ça ressort forcément différemment. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est presque incontrôlable, et c'est ça qui est fou. Après, moi, personnellement, ma source d'inspiration principale, c'est vraiment la musique. C'est ce qui me transporte le plus, et c'est vraiment... Enfin, je sais pas, je pense qu'en termes de spectre sensationnel, c'est ce qu'il y a de plus grand, en tout cas vis-à-vis de moi, toujours. Et puis moi, je me nourris aussi énormément des gens, en fait, du monde qui m'entoure, de ce que je vois, de ce que je ressens. J'observe énormément les autres. Je suis pas une énorme cinéphile, j'adore le cinéma, bien sûr, mais j'ai vraiment des goûts extrêmement précis, je sais exactement ce que j'aime. Je suis pareil en littérature, même en photo, je sais ce que j'aime. Et du coup, je vais peut-être regarder moins de choses que certaines personnes, mais par contre, ce que je vais regarder, je sais que ça va être très pertinent pour moi. Voilà, même si je baigne tous les jours dans beaucoup d'images, sur Instagram, sur Pinterest, sur Flickr. Enfin voilà, évidemment que c'est ma nourriture quotidienne, mais pas pour autant forcément ma source d'inspiration principale.
Et ça se voit, c'est vrai qu'il y a un fil conducteur quand même dans tes projets perso que j'ai pu découvrir aussi. Mais effectivement, tu t'es quand même spécialisée dans le portrait de groupes ou d'artistes musicaux, notamment on peut le voir sur ta page Instagram, on en parlera un petit peu plus tard. Comment ça a commencé ? Est-ce que tu as rencontré un artiste ? Est-ce qu'il y a des artistes musicaux autour de toi que tu avais envie de photographier ? Comment ça a commencé ?
En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs points de départ. Quand j'étais au lycée, d'abord, j'ai commencé à faire des photos dans différents événements, toujours en lien avec la musique. Donc, par exemple, les goûts électro, la hip-hop session. Puis, j'ai intégré Abstract, puis je faisais aussi des photos. Et parallèlement à ça, j'ai pris des photos pour Degree, donc un très bon ami à moi. Et puis, en fait, au fur et à mesure, de fil en aiguille, ouais, c'est ça. J'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient toujours dans le milieu de la musique. Enfin, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Il y a un truc que je me suis jamais dit, je veux aller vers le milieu musical, mais comme la musique, en fait, ça fait partie de mes plus grandes passions. Il y a eu un truc très naturel, en fait, d'aller vers ce milieu-là, parce que je pense que d'abord, j'avais des amis là-dedans, c'était des lieux que je fréquentais, ceux de la musique. Enfin, il y a eu vraiment tout un truc où c'était naturel d'aller vers ça. J'aime vraiment faire ça. J'adore quand les artistes m'envoient leur petit lien SoundCloud avec des sons qui sont pas encore sortis, et moi, je me plonge dans l'univers, je découvre le truc, je vois ce que je ressens. Il y a vraiment un truc où j'adore me plonger dedans et voir comment moi je peux faire ressortir des idées, participer à la construction de l'univers visuel des artistes. Et je pense qu'il y a un peu une énergie qui se transmet du coup, parce que moi j'adore faire ça, donc je pense que les artistes le sentent. Et donc, enfin, je pense que ça se transmet un peu facilement entre tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai avancé là-dedans aussi.
Et comme tu le dis, une certaine émotion, en fait. Tu as besoin de sentir ça aussi à travers tes différents projets. Et justement, je t'avais demandé de choisir. Alors, c'est compliqué, j'imagine, avec tous les artistes avec lesquels tu travailles. Mais de choisir un artiste que tu vas nous présenter un petit peu, avec qui tu as collaboré. Et je voulais que tu m'en parles un petit peu et de me dire pourquoi tu as choisi cet artiste et ce titre en particulier.
Du coup, j'ai choisi de présenter le titre Summer Blue de Ava, qui est une exclusivité, qui n'est pas encore sorti officiellement. Donc Ava, c'est une artiste avec qui je collabore depuis un petit bout de temps maintenant. Je prépare en tout cas pour l'instant l'exclusivité de... Enfin, quasiment la totalité de l'image de son projet. En fait, c'est un projet de synthpop. Donc les sons vont commencer à sortir dans les mois qui viennent, accompagnés de clips, de visuels et tout ça. Donc c'est un univers pop qui se veut vraiment cinématographique, qui veut aller dans l'esthétisme de l'image, mais c'est aussi un projet engagé et qui est porté par une femme qui est aussi une très bonne amie à moi et que j'admire énormément, donc ça compte beaucoup pour moi de pouvoir partager son travail.
Eh bien, on écoute alors en exclusivité le titre Summer Blue d'Ava tout de suite sur Prune 92 FM. C'était Ava, Summer Blue. On est toujours dans l'émission TFQ et nous sommes toujours en compagnie de Zoé. Zoé, merci pour cette exclusivité. Oh, ça fait bien plaisir en tout cas. Alors, je vais enchaîner sur quelque chose peut-être d'un peu moins marrant, un peu moins sympathique. Mais je voulais savoir, avec tout ce qui se passe en ce moment, sur la crise sanitaire, etc., est-ce que tu sens, toi, que ça t'a impacté dans tes projets et dans quelle mesure ?
Je pense que, comme de nombreux artistes, ça m'a énormément impactée. Premier confinement, ça a été extrêmement positif. J'avais vraiment besoin d'une pause, en fait, d'un moment où je pouvais me retrouver, aller explorer des nouvelles choses, reconnecter avec mon univers personnel. Donc ça a été génial, j'ai fait un autoportrait par jour, donc pendant plus d'un mois. Ça a été très très enrichissant, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai enchaîné avec un projet que j'ai fait en collaboration avec mon ami Anselme Servin, qui est photographe aussi. Enfin voilà, il y a eu une espèce d'effervescence où j'avais envie de faire plein de choses qui venaient de moi, parce que j'ai souvent l'habitude de travailler pour les autres, et donc là ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ce deuxième confinement, je l'ai vécu totalement différemment, ça n'a pas été aussi fun. Là, je crois qu'on est très nombreux et nombreuses comme ça. Ouais, c'était un peu la goutte de trop et ça a été vraiment difficile de se réapproprier les conditions qu'on connaît aujourd'hui pour en faire quelque chose de cool. Donc oui, ça m'a impacté, d'autant plus que j'ai quitté Nantes il y a quelques mois pour m'installer à Paris. L'objectif était pour moi de rencontrer un maximum de monde, faire plein de choses. Et puis bah du coup, non, je nagerai chez moi, quoi. Donc voilà, on fait avec, il n'y a pas trop de choix, mais c'est sûr que c'est une période qui n'est pas forcément facile à surmonter pour tout le monde, quoi.
C'est sûr, pour tout le monde, comme tu le dis. Donc, on espère qu'il y aura un avenir meilleur pour plein de personnes et notamment pour le domaine de la culture. Et donc, aujourd'hui, je voulais aussi te demander, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dictées par la société. On a l'impression que c'est de plus en plus dur de s'exprimer librement sur le travail qu'on souhaite faire. Est-ce que toi, tu ressens ça? Est-ce que tu te sens libre dans ton travail?
Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où je trouve qu'il y a quand même des sujets, des portes qui s'ouvrent sur certaines choses, notamment, je ne sais pas, sur le féminisme. On considère beaucoup plus le fait de prendre des personnes qui ont des corps qui n'appartiennent pas forcément au code de beauté, des choses comme ça. Et pour moi, ça participe à la liberté. Après, il y a toujours des choses, par exemple, comme Instagram, qui ne veut toujours pas qu'on mette des tétons de femmes sur ce réseau. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Dans ma pratique à moi, qui ne m'impose pas trop de contraintes vis-à-vis de toutes les possibilités qu'il y a. Donc je me sens plutôt libre, ouais, je me sens plutôt libre. Et puis je pense que même les contraintes qui existent peuvent être des contraintes qui sont intéressantes parce que finalement, ben, il faut savoir les détourner, il faut savoir les contourner et tout ça. Et donc ça participe au jeu, quoi, finalement.
Donc, mis à part les tétons sur Instagram, ça va.
Ça va.
On a le droit de le dire à la radio, donc on se le permet. Et justement, Zoé, donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, comme je te disais tout à l'heure, donc sur Facebook et Instagram. Si vous allez chercher sur Insta, on peut voir sur ton profil, donc Zoé Cavaro, tous tes projets, tout ce que tu as pu réaliser. Je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a vraiment des couleurs qui sont assez fantastiques. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'univers. Et justement, est-ce que tu as des projets en cours en ce moment? Alors, on l'a dit à l'instant, c'est forcément un petit peu plus compliqué dans ces conditions, mais j'ai vu quand même que tu faisais des petites boxes pour Noël, par exemple.
Exactement. Oui, évidemment, je continue quand même de créer. Donc, ouais, j'ai mis en place des petites boxes là pour Noël. J'avais envie de proposer de quoi faire des cadeaux un peu originaux, sympas et qui soient faits quand même avec mes petites mains. Enfin, faire un peu plus que juste des tirages, quoi. Et puis, voilà, j'avance toujours sur des projets de clips pour des groupes nantais qui va bientôt arriver. Et puis, toujours des photos à droite, à gauche. Je continue quand même.
C'est chouette. En tout cas, on continuera aussi à te suivre sur tes projets. Alors, j'ai une petite question pour la fin, Zoé, puisqu'on est dans l'émission TFQ. Donc, TFQ pour Tu fais quoi? Alors, je sais qu'on est encore en période de confinement, mais qu'est-ce que tu vas faire ce soir, Zoé?
Eh bien, écoute, comme tous les soirs, je vais manger un bon repas et me caler dans mon lit avec une bonne série.
Rien de tel qu'une bonne série. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Zoé, pour ta présence dans l'émission. On a été ravis de t'accueillir et j'espère à très vite, peut-être en vrai.
Au plaisir, merci à toi.
Tu fais quoi?
TFQ.
C'est votre émission sur la scène locale.
Tous les samedis, de 18h à 19h,
sur Prune 92 FM.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM, c'était à l'instant l'interview de l'artiste Zoé Cavaro, menée par les soins de Lisa. On va passer tout de suite à la chronique d'Antonio.
C'était le 12 mars dernier, première déclaration solennelle du chef de l'État,
chers compatriotes,
et première mesure spectaculaire.
Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités.
Et pour cette dernière émission de l'année, il est temps de faire le bilan 2020. L'événement médiatique incontournable de l'année, c'était bien sûr le coronavirus et les mesures extrêmes adoptées pour y faire face, le confinement en tête. En fond, on écoute On est quoi de Disc Chic, inclus dans la troisième compilation de la série 2 de Confiné Records. Et si on a envie de retenir quelque chose de cette année 2020, c'est quelque chose sont des disques confinés. Un marathon performatif d'artistes graphiques et musiciens qui se sont posé le défi de sortir un album par jour de confinement. 70 pochettes et plus de 1000 morceaux après, on va avoir besoin de quelques années pour bien se rendre compte de ce que tout ça représente.
Yeah.
L'artiste qui a pris la performance le plus au sérieux, c'est Raphaël Jarry, qui a fait un morceau par jour de façon littérale. Dans le bandcamp de l'artiste, on peut trouver les deux albums correspondant aux deux confinements. Je vous propose d'écouter le septième jour du deuxième confinement de Raphaël Jarry.
In evolution, sir?
I believe in evolution? I embrace the view that God created the heavens and the earth, the seas and all that's in them.
Des données actuelles qu'environ entre 10% et 20% des espèces qui ont existé se sont fossilisées. Si toutes les espèces actuelles ou passées étaient toutes arrivées en même temps sur Terre, la probabilité qu'on observe les données fossiles pile dans le bon ordre, elle serait infinitésimale. On n'a aucune donnée fossile incohérente. Vous ne trouvez jamais un Homo sapiens moderne dans une couche géologique il y a 50 millions d'années. Jamais, même pas un seul, zéro. On n'observe jamais un lapin au paléozoïque, jamais, même pas un seul zéro. Aujourd'hui, on a plus d'un million de fossiles qui ont été décrits. Sur ce million, il n'y en a aucun qui est complètement incohérent. Théorie de l'évolution, c'est une théorie parce qu'on n'observe pas directement, mais aujourd'hui on a accumulé un nombre incroyable d'observations qui confirment cette théorie, un nombre si grand qu'aujourd'hui la théorie de l'évolution fait partie des théories scientifiques les plus solides de tout le domaine de la science.
C'était Raphaël Jarry avec ce débat entre deux visions radicalement différentes du monde qui font écho à un autre événement médiatique qui a marqué 2020, les élections nord-américaines. Mais peut-être que l'événement de cette année qui aura un impact plus profond dans le futur proche c'est l'éveil de la société civile globalisée vis-à-vis du caractère institutionnel de la discrimination raciale perpétrée par l'État. L'affaire George Floyd a massifié la visibilité d'une réalité qui était toujours là, mais qui est devenue impossible à ignorer. On écoute de suite le deuxième jour de ce dernier confinement de Raphaël Jarry.
L'État français s'est construit sur un amoncellement de corps meurtris. Il a chassé, tué, colonisé, enfermé et soumis en esclavage pour réaliser ses desseins. Une fois son empire colonial démembré, la France a importé sa main-d'œuvre, mais lui a refusé les mêmes droits que les natifs de la métropole. Colonisés de l'extérieur, ils sont devenus colonisés de l'intérieur. On leur a construit foyers, cités dortoirs, bars et tours de béton, qu'aujourd'hui on résidentialise en apposant des murs, des grilles et des codes, pour séparer les corps et mieux les contrôler. Ennemis à l'extérieur, ils sont devenus ennemis de l'intérieur. Le corps étranger suscite peur et fantasmes. Il est indésirable. Il angoisse le pouvoir. Dominer les corps, c'est dominer les esprits. Quand ils se sentent libres, il faut les ramener à l'ordre. C'est le travail de la police. Le corps étranger, de surcroît s'il est pauvre, n'est pas autorisé à être désinvolte. Il doit être docile et s'intégrer dans le corps social de la métropole. L'État ne supporte pas qu'on lui désobéisse. C'est pourquoi, il y a 20 ans, il a importé de nouvelles armes. Des armes pour punir les récalcitrants. Autrefois, on marquait les corps des esclaves au fer rouge. Aujourd'hui, on frappe les corps des immigrés avec des balles de plastique. C'est l'ordre colonial. Dans les flashballs, les lanceurs de balles sont le prolongement métallique. Il y a les corps qu'on abîme et il y a les corps qu'on élimine. Officiellement, ils ont aboli la peine de mort. Mais à l'ombre de la République, on assassine encore. L'État a horreur des corps qui ne se domptent pas et des esprits qui ne se contrôlent pas. Alors plutôt que d'accorder la liberté ou d'admettre son impuissance, il faudra les neutraliser. Besoin de guillotine ou de potence, puisqu'il y a les policiers. Quand il s'agit de neutraliser les corps indociles, la police agit avec mépris et dégoût, porte des gants et se pince le nez. Le raciste veut nettoyer le corps social de ce qu'il juge impur. Alors quand s'engage un corps à corps, le policier perd toute raison. L'empathie cède le pas à la folie, virile et castratrice. Et le policier n'hésite plus à tordre le corps étranger, jusqu'à ce que dans un dernier soupir, suppliant de le laisser vivre, celui-ci finisse par se rompre. C'est ce qu'on appelle la torture. Le monde contemporain se nourrit d'individualisme. Si la concurrence est devenue un principe moral, la peur de l'autre est pour sa part un vieux réflexe. Car la xénophobie est une pathologie ancienne. On craint ce qu'on ne connaît pas, on fuit ce qu'on ne comprend pas. Le corps étranger fait peur car il est différent. Tantôt perçu comme un monstre viril, tantôt comme un être animé de vice. Le corps étranger concurrence les corps autochtones et menace la survie d'une société occidentale animée depuis toujours par cette phobie de ce qui n'est pas comme elle, blanche et pure, pudique et normée, inspirée de mythologie gréco-romaine. Et le corps policier ne fait que porter en lui les métastases de cette vieille maladie. Le racisme en France est structurel, systémique, inébranlable. Et comme pour infliger un coup fatal aux proches de victimes, les policiers bénéficient dans l'immense majorité de non-lieux ou s'en sortent avec des peines ridicules assorties du sursis. L'impunité garantie à la police par le pouvoir et ses tribunaux fait perdurer le système d'injustice qui maintient le peuple dans la soumission. Les pauvres doivent se tenir sages quand la sagesse voudrait qu'on s'insurge et qu'on se tienne debout pour conserver notre dignité. Alors quand l'injustice nous paraît trop insupportable, il n'est plus question de subir. Il faut entrer en résistance à nos corps défendants.
Tu fais quoi ?
TFQ.
C'est votre émission sur la scène locale.
Tous les samedis, de 18h à 19h,
sur le 92 FM.
Et en podcast sur prune.net et le Mixcloud de TFQ Radio.
Vous êtes toujours sur Prune dans Tu fais quoi ? Tout de suite, un petit pied de nez à la fermeture de tous les lieux culturels qui puissent exister et un moyen de raviver la flamme. J'ai rencontré un ancien Nantais et je lui ai posé quelques questions concernant ses meilleurs souvenirs de soirées et de concerts. Tout de suite, c'est souvenirs sur Prune.
Duchessanne, château des Ducs de Bretagne.
Duchessanne, château des Ducs de Bretagne.
Souvenir, souvenir.
Salut Mathieu.
Salut Baptiste. Salut TFQ.
Merci de nous accorder ce temps privilégié dans TFQ. Tu as 26 ans aujourd'hui même. Tu résides à Bruxelles depuis un peu plus d'un an où désormais tu profites du temps qui passe. De ce qui m'a été rapporté, tu as un passif avec la ville de Nantes, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais m'en toucher deux mots sur les raisons qui t'ont poussé à passer par la ville au petit bois?
Alors, je suis né dans le beurre, je suis né à Nantes. Toute ma famille est à Nantes. Quand je dis famille, c'est surtout les amis, parce que ma famille est un peu en dehors de Nantes. Mais j'ai grandi à Nantes et j'ai dû quitter Nantes parce qu'il faut voir autre chose.
Parfait. J'en appelle maintenant à ta mémoire musicale, à ton bon souvenir de ton passage dans cette ville. Est-ce que tu pourrais me faire le récit d'un ou de plusieurs de tes concerts mémorables à Nantes?
Bathroom of Death. C'est le premier souvenir. Le concert de Bathroom of Death. Désolé pour mon anglais. C'était en 2013. En mai 2013. Donc j'allais passer le bac. Que j'ai eu avec mention bien. Donc c'est bien. Donc j'étais allé à ce concert avec le grand frère de mon meilleur ami. Et des potes à lui. C'était plus âgé. Et c'était un concert de garage rock. Au Stéréolux dans la petite salle. C'était très très cool, j'en ai un très bon souvenir, même si 2013 me paraît loin. Je sais que c'était peu beau, c'était sale, ça sentait la transpiration. Et en fait, la petite anecdote, c'est que une personne avec qui j'étais a, par inadvertance, parce qu'elle était très ivre, pris la pédale d'un des guitaristes. Et le groupe s'est plaint, nous a volé nos pédales. Et donc, mon ami, donc j'étais réellement, et aller leur vendre la pédale à la fin du concert, et a dit « Ouais, j'ai retrouvé la pédale, non. » Et donc il a été invité à faire un after dans les loges, du coup. Il est passé pour un héros alors que c'était l'anti-héros. Et voilà. Moi, je suis retourné dormir chez un de mes amis, et je suis allé au lycée le lendemain, j'étais très fatigué. Alors, deuxième souvenir, C'est une période où j'étais très très triste. Je venais de me faire larguer. Enfin, on va dire que l'amour ne battait plus entre nous deux. Et je suis très romantique. Et donc en fait, j'avais déjà acheté, avant comme kid, j'avais déjà acheté des places de concert pour ce fameux Mac DeMarco qui passait au Stérolux en 2017. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Bon, bah, on y va quand même ensemble ». J'étais un peu sceptique et j'y suis quand même allé. Elle m'a invité à boire un verre. C'était un peu gênant, mais ça s'est passé. Et une fois au concert, c'était bien. On a débarqué, un peu lover, du coup, c'était un peu dur sentimentalement. Il y avait des petits jeux de regard et du coup, je me suis imaginé des choses. Et Matt DeMarco était très, très, très bourré. Il faisait un espèce de jeu de lasso avec son micro et il éclatait le micro sur scène. À un moment, il est parti pendant 20 minutes. Ses musiciens ont dû improviser. Il était trop bourré, enfin, je sais pas ce qui se passait. Donc musicalement, il était pas au top de sa forme. Et moi, dans ma tête, c'était un peu le bordel. Et donc à la fin du concert, on s'est quitté. J'ai payé une pizza, puis on m'a dit bon, bah salut, je rentre chez moi. Donc, je suis allé dormir chez une amie, je suis reparti à Rennes, à la fac, où j'étais à l'époque. Le lendemain matin, j'étais tout déprimé. Mais c'était bien quand même. Troisième souvenir, c'était plus tôt, c'était en 2015. On faisait des soirées avec Outside, mon collectif, et Artefact. On faisait des soirées à l'Insula, ou plutôt des journées, c'était le dimanche après-midi. Donc il y avait une scénographie, c'était le souk, toutes ces couleurs, avec toutes ces odeurs. Et on avait invité Sam Cropper. Donc Sam Cropper, un peu la rockstar du milieu électronique et nominal, tout ça. Et en fait, il était invité, c'était une date qui tombait sur son anniversaire. Il avait déjà fait 4 gigs juste avant, et donc il avait enchaîné sa bonne réputation de rockstar. Il avait enchaîné, il était arrivé dans un état assez interrogatif. Donc ce Sam Cropper est arrivé, et la première chose qu'il a demandé, c'est une grande glace blanche, une très grande glace blanche, juste avant de jouer. Du coup, il a mis son nez sur la table dans la glace blanche, et il a commencé. Il commençait torse nu et il faisait de la boxe avec les enceintes du retour. Très bizarre. Il m'a regardé, il m'a tendu sa cigarette, il m'a dit tu veux une cigarette. J'ai fumé une barre et j'avais regardé la cigarette dans les yeux et je me suis dit oula, c'est une mauvaise idée. Et donc voilà, il a fait son set, un peu n'importe quoi. On lui a même acheté un gâteau d'anniversaire. Au début, il l'a refusé. Et ensuite, vu qu'il a vu que, qu'on était quand même les organisateurs de la soirée, il a pris le gâteau et il a fait comme s'il était content. Et voilà, donc il y avait du monde, c'était très bien, c'était chaleureux, c'était la bonne époque où Nantes vivait. Et après, bah, il est même pas allé à son hôtel 4 étoiles comme il aurait payé. Enfin, son booker voulait qu'on prenne un hôtel 4 étoiles. Et en fait, il a fini en after dans une baignoire à mettre le nez dans le chocolat. Voilà, c'était mes souvenirs de Nantes.
Merci Mathieu d'avoir réactivé la vie nocturne nantaise avec nous et puis bah, bon anniversaire.
Merci Baptiste, merci TFQ.
Oui, montage.
Thank you so much. Hey.
Happy birthday to you.
The only my only problem tonight is that there's too many white people in the house. But apart from that fact, I'm so honored. I'm looking for another word for honoré. No, fuck it. I'm honored to celebrate my 38th motherfucking birthday. Yeah. Here, right now, on your face, man. Yeah. And I even got a little birthday cake, yeah. So the guy is getting a couteau, and he's cutting up little slices and slivers, so I want everyone to have that chocolate little. Bring it on back there. Back to Papa. Yeah, I want you. to lick my telephone.
Tu fais quoi?
Wow. Tu fais quoi? Allô, dis-moi, tu fais quoi?
Vous êtes toujours sur Prune dans l'émission Tu fais quoi? La culture est morte, vive la culture! Le saviez-vous, les acteurs culturels nantais travaillent dans l'ombre avec par exemple l'initiative Sortie de piste, un nouveau parcours imaginé pour accompagner les producteurs, productrices émergents, émergentes de musique électronique des Pays de la Loire. Il est porté par le label et disquaire bar 44 Tours, le club électro Macadam, l'équipe d'Androgyne et Trampolino en partenariat avec Ableton et l'école de design Nantes Atlantique. Ce dispositif a reçu plus de 101 candidatures. Prochaine étape en janvier pour la session d'écoute en live devant un jury qui déterminera le choix du ou de la gagnante. Il y a 5 entités qui ont été présélectionnées et avec TFU, on vous propose de passer en revue chaque artiste sélectionné et ainsi de mettre un coup de projecteur sur celui ou celle qui remportera un accompagnement professionnalisant, un véritable coup de boost à sa carrière. Alors, le deuxième artiste auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui n'est autre que Bergjar, donc un Nantais qui nous confectionne de la techno briquée, fondateur du label Room et un habitué de la radio, la web radio DY10 avec l'émission Vroom, sort un EP très très prochainement en ce mois de décembre intitulé Room Split numéro 1. On va écouter, pour se donner un peu un ordre d'idée de ce que représente de la techno briquée nantaise et un aperçu de ce futur EP, le titre Rare. C'est Bergjar tout de suite sur Prune 92 FM.
Pour débuter, il est préférable de travailler des bases rythmiques simples qu'on peut apprendre très facilement en utilisant que la moitié et le quart de la main. Moitié, le quart. Premier exemple, deux moitiés et un quart. Simple.
Il est bientôt 19h, il va être temps de se quitter. C'était la dernière émission de 2020 de TFU sur Prune. On se retrouve en 2021, le 9 janvier. Merci Amélie, merci Antonio d'avoir répondu présent aujourd'hui.
Merci Baptiste.
Merci à l'équipe.
Et puis vous pouvez reprendre un petit peu toutes les émissions de la deuxième saison de TFQ sur le Mixcloud ou sur notre page Facebook. Et on vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.
N'oublions pas le site de Prune, qui est un tout nouveau site où vous pouvez trouver aussi nos émissions, bien comme tous les autres de Prune. C'est une espèce de cadeau de Noël, on a envie de dire. Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
T.
F.
F.
Fait.
Q.
Q.
Quoi.
T.
F.
Q.
T. Q.
Tu fais quoi?
L'émission qui est ce que tu fais.
Tu fais quoi?